VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 23 décembre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, la signature d'un accord de sortie de crise est prédite pour aujourd'hui. Au deuxième dialogue sous l'égide de la CENCO, nous aurons un dossier sur les derniers développements.
Un vaccin contre Ebola pourrait avoir jusqu'à 100% d'efficacité, a déclaré l'OMS.
En Australie, la police a annoncé aujourd'hui avoir déjoué un complot terroriste inspiré par le groupe État islamique à l'occasion de Noël.
En Allemagne, deux hommes soupçonnés de préparer un nouvel attentat, cette fois dans un centre commercial de l'Ouest, ont été arrêtés.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, ce vendredi pourrait être déterminant pour le dialogue dit de la dernière chance en vue d'une sortie de crise dans le pays. La signature d'un accord entre les partis en présence sous l'égide de la CENCO est attendue ce vendredi. Hier, il a été question d'aplanir toutes les dernières divergences entre les deux délégations à ces négociations, celle de l'opposition et celle de la majorité présidentielle. De Kinshasa, Charlie Kassereka fait le point.
C'est tard à la nuit que les évêques et les membres des deux délégations sont sortis de la salle pour rencontrer la presse. Et les évêques, comme les quelques délégués, se sont exprimés devant les médias avec des petites réserves. Mais dans les propos, on pouvait sous-attendre une certaine satisfaction. Un texte consensuel devrait sortir ce vendredi pour la signature. Il se peut que Kabila ait fait de larges concessions pour faire avancer les négociations. Il a par exemple accepté, selon plusieurs sources ici, qu'il soit écrit dans l'accord qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat et qu'aucun projet de modification de la Constitution ne soit entrepris, mais c'est lui Kabila qui conduit la transition. Une autre avancée à signaler pour ces négociations est que l'organisation de la présidentielle vient d'être avancée pour fin 2017 et non plus en 2018. Dans la démarche, il y aura recomposition des gouvernements provinciaux, mais l'Assemblée nationale et le Sénat demeurent, comme aussi les assemblées provinciales. Cette journée de vendredi semble être décisive pour la signature de l'accord tel que souhaité par les évêques catholiques qui jouent la facilitation. Charlie Kassereka, Kinshasa pour VOA Afrique.
Les évêques, qui, comme vient de le dire Charlie, assurent la médiation, sont optimistes quant à la signature d'un accord aujourd'hui, même s'ils se veulent prudents dans leurs affirmations. Au micro d'Eddie Isango, écoutons le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatien Chole.
C'est possible que l'accord soit conclu, mais comme je l'ai dit autrefois, ce n'est pas bon à ce stade de dire concrètement les avancées pour la simple raison que c'est simplement prudent de ne pas dire les choses avant parce qu'on est en politique et en politique tout est possible. Donc je n'aimerais pas, comme porte-parole de la médiation, avancer des choses qui ne sont pas consignées et signées.
Donc toutes les divergences ont été aplanies, peut-on dire?
On n'a pas encore clôturé, il y a encore un petit chemin à faire. Nous espérons qu'on pourra conclure.
Mais dans quel sens va-t-on? Parce que jeudi, le gouvernement, issu de l'accord signé entre le pouvoir et une partie de l'opposition, a été investi au niveau du Parlement.
Le gouvernement n'a rien à faire avec le dialogue en cours. Ça ne nous dérange en rien. Si jamais l'accord arrive à être signé, comme nous l'espérons demain, tout sera réglé à partir de cet accord-là.
C'était l'abbé Donatien Chole, secrétaire général adjoint de la CENCO.
Le chef de file de l'opposition qui a participé au dialogue de septembre et octobre dernier avec le gouvernement, Vital Kamerhe, revient ici sur le volet calendrier électoral à ces négociations sous les auspices de la CENCO.
La CENI avait fait deux propositions. Vous voulez les élections en 2017? Nous utilisons le vote électronique. Mais sinon, nous avons fait des calculs, on peut faire les élections en février 2018. Nous avons écarté les deux possibilités et nous avons proposé, puisqu'il s'agit du peuple qui attend de nous un sursaut patriotique, nous avons dit aux évêques, c'est moi qui ai pris la parole et je me suis adressé aux amis de la majorité, retenons 2017, puisque de toute façon, il y a toujours l'incise, toutefois, s'il y a des contraintes d'ordre technique, on peut prolonger prolonger et organiser les élections convenablement. Alors je ne vois pas pourquoi on va brûler le pays à cause de 2 mois. Aujourd'hui, je pense que les esprits se sont apaisés. L'élite que nous sommes, étions mieux inspirés que les autres fois. Comité de suivi pour nous qui étions à la Cité de l'Union africaine, Conseil national de transition pour les rassemblements. Alors nous avons convenu que ça ne soit ni l'un ni l'autre. Et demain matin, il y a une petite équipe qui va travailler pour une formulation qui ne sera ni celle de la Cité de l'Union africaine, ni celle du rassemblement. C'est ça le compromis.
Déclaration de Vital Kamerhe à la presse, recueillie par Top Congo FM, notre station partenaire en RDC.
Même le camp de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui a boycotté le dialogue tenu sous la facilitation d'Edem Kodjo, confirme qu'un accord est en perspective. Explication dans cette interview accordée à Idi Isango par l'un des sages du rassemblement, Lisanga Bonganga.
En fait, il concerne ces deux éléments importants. Le premier, le maintien de Joseph Kabila au pouvoir et les élections dans le délai bref. Nous commençons par ce qui arrive d'abord pour le maintien. L'article de la Constitution 70, alinéa 1er, qui parle qu'après 2 mandats, on ne peut pas y arriver en 3e mandat, cet article a été bien écrit. Et nous avons parlé de l'article 73 qui parle de l'élection. Et nous sommes arrivés à la situation qu'on nous a mis devant un fait accompli. Et que la responsabilité incombe au pouvoir qui nous a gérés. Tout ça, on a analysé. Et à ce jour, on a dépassé le 19, privé de la question. On a analysé. Raison pour laquelle je vous dis qu'il y a eu des propositions de part et d'autre, il y a une tendance générale et essentielle qui peut nous amener vers un consensus. Il y va aussi de la même manière pour la deuxième question qui concerne l'élection, surtout l'élection présidentielle, où nous nous sommes donné rendez-vous que ça puisse avoir lieu en 2017. Nous allons dégager la dernière tendance essentielle, mais au moins, nous pouvons affirmer aujourd'hui au effort qu'il y a eu des avancées significatives.
C'était Lisanga Bonganga, membre du Rassemblement.
Merci à Eddie Sango, Charlie Kasereka et Top Congo FM pour ce dossier sur la RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
D'influents leaders religieux somaliens s'insurgent contre le sport féminin. Ils le qualifient de non-islamique et de menace à la fois des filles et des femmes. Précision de Michel Joseph.
Les membres du Conseil religieux somalien ont publié une déclaration dans ce sens jeudi, au moment où se prépare à Garoué, capitale de la région du Puntland, un tournoi national de basketball féminin. Nous avertissons les femmes que le basketball viole la loi, la culture ainsi que les valeurs islamiques. C'est une activité où les femmes peuvent être facilement corrompues, a expliqué au service somali de la VOA le président du Conseil Sheikh Bachir Ahmed Salah. Nous avons le droit de défendre nos valeurs islamiques qui ne permettent pas aux femmes de porter des tenues de sport et d'afficher publiquement leur corps et leur beauté, a ajouté le leader religieux somalien. Le tournoi en préparation, première compétition féminine du genre en Somalie, doit réunir des équipes de 4 États fédéraux somaliens et de Mogadiscio, la capitale. Je joue en portant mon voile islamique, c'est mon sport favori et j'ai le droit de le pratiquer tant que je ne viole pas les valeurs et piliers de la religion, a réagi Sarah Mohamoud, une basketteuse somalienne.
Un vaccin d'origine canadienne contre Ebola, maladie qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, pourrait avoir jusqu'à 100% d'efficacité. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'OMS. Il n'y a eu aucun cas d'Ebola parmi les près de 6 000 personnes qui ont reçu l'an dernier ce vaccin en Guinée, contre 23 cas chez les non-vaccinés, ce qui suggère fortement que le vaccin est très efficace et pourrait avoir une efficacité jusqu'à 100%, a déclaré à l'AFP le docteur Marie-Paul Kieny, sous-directrice générale à l'Organisation mondiale de la santé. Nous poursuivrons dans la seconde partie de cette édition, notre série sur Ebola, 3 ans après.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, affirme vouloir renforcer et augmenter les capacités nucléaires des États-Unis. Cette déclaration intervient seulement un jour après que le président russe a tenu des propos similaires. Gabi Dorsil fait le point.
Selon Vladimir Poutine, l'arsenal nucléaire de la Russie mérite d'être considérablement accru. Dans ses commentaires sur les diverses campagnes de l'armée russe en 2016, M. Poutine a expliqué que ces améliorations permettront de neutraliser n'importe quelle menace militaire. Il nous faut surtout des missiles capables de pénétrer efficacement tout système de défense, a-t-il ajouté. Les États-Unis et la Russie possèdent actuellement une quantité presque identique d'armes nucléaires, soit 7100 et 7300 respectivement, selon des données compilées par une association non partisane basée aux États-Unis. L'appel de Donald Trump intervient également au lendemain d'une rencontre en Floride avec plusieurs hauts gradés de l'armée américaine. On ignore cependant s'ils ont discuté de la question nucléaire. Durant la campagne électorale, M. Trump avait vacillé sur ce thème, suggérant tantôt que le monde serait plus sécurisé avec davantage d'armes nucléaires, mais disant plus tard qu'un monde nucléarisé fait vraiment peur. Toute augmentation de l'arsenal nucléaire américain représenterait un changement majeur de la politique de Washington, qui a toujours mis l'accent sur la réduction de telles armes.
En Australie, la police a annoncé aujourd'hui avoir déjoué un complot terroriste inspiré par le groupe État islamique qui projetait plusieurs attentats le jour de Noël dans le centre de Melbourne. 7 personnes ont été arrêtées dans une série de rafles. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Eric Manirakiza.
L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a reçu un prêt d'environ 41,3 millions de dollars américains. Ce financement partiel octroyé par la Banque Atlantique Côte d'Ivoire soutiendra des projets prioritaires du plan des services et d'équipements de l'organisation implantée dans 8 pays. Le coût global est estimé à environ 372 millions de dollars américains. Nouvelle liaison directe entre Malabo et Bamako, la compagnie aérienne équato-guinéenne Seiba International l'a inaugurée hier pour 3 motivations. Satisfaire une demande très forte des Maliens résidant en Guinée équatoriale, développer davantage les liens économiques entre les deux pays, enfin prouver la capacité de l'Afrique à mettre en place des compagnies aériennes sûres, viables, capables de relever les défis de la concurrence internationale. Seiba dessert désormais 12 destinations. Le géant de l'automobile allemand Volkswagen a convenu avec Kigali d'installer au Rwanda une usine d'assemblage. Selon un mémorandum d'entente, la branche de l'entreprise en Afrique du Sud va monter à Kigali des véhicules faciles à maintenir et qui consomment moins de carburant.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Pas de surprise pour le trophée du joueur africain de l'année. On connaît les finalistes.
L'Algérien Riyad Mahrez de Leicester, le Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et le tenant du titre gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund sont les 3 derniers footballeurs en lice pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année. Les 3 hommes sont arrivés en tête des votes des sélectionneurs ou des directeurs techniques des associations affiliées à la CAF, ainsi que les experts du football et les médias. L'Égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Islaïm Slimani resteront donc au pied du podium. On rappelle que le trophée sera remis le 5 janvier prochain à Abuja, au Nigeria. Aubameyang, qui a mis fin la saison précédente à 4 ans d'hégémonie de l'Ivoirien Yaya Touré, pourrait se succéder à lui-même. Le joueur du Borussia Dortmund, âgé de 27 ans, a été sacré meilleur joueur de Bundesliga cet été.
L'Afrique du Sud n'a plus de sélectionneur.
Efraïm Machaba a été limogé pour avoir insulté le président et le directeur exécutif de la Fédération. Efraïm Machaba a été reconnu coupable de mauvaise conduite, insubordination et violation des règles de communication selon la Fédération sud-africaine de football. On rappelle que Machaba avait été publiquement critiqué le mois dernier par le président et son directeur exécutif après avoir échoué à qualifier l'équipe nationale pour la CAN 2017 au Gabon.
Le Sénégal, premier pays africain au classement du football mondial de la FIFA.
Eh bien, c'est l'Argentine qui termine l'année 2016 en tête du classement FIFA. L'Albicéleste achève donc 2016 juste devant son grand rival, le Brésil, puis l'Allemagne sur la 3e marche du podium. On rappelle que la sélection de Lionel Messi, qui était parti en retraite international, puis est revenu après le leadership en avril aux dépens de la Belgique pour ne plus abandonner la tête de ce classement FIFA. Pour l'Afrique, le Sénégal, à la 33e place, occupe le premier rang pour les nations africaines, suivi de près par la Côte d'Ivoire 34e. La République démocratique du Congo arrive 48e.
Mauvaise nouvelle pour le Sénégal avant la CAN 2017.
Diafra Sakho, régulièrement blessé depuis le début de la saison, a subi une opération au dos qui le privera de la Coupe d'Afrique des Nations qui doit débuter dans 3 semaines au Gabon. Gabon. C'est ce qu'a déclaré son entraîneur, Slaven Bilic. À 26 ans, l'international sénégalais de West Ham n'a fait que 2 apparitions cette saison en Première Ligue. Il ne rejoindra donc pas les Lions de la Teranga pour cette CAN 2017. On rappelle Idrissa que le Sénégal sera dans le groupe B avec la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie. Allez, quelques mots de NBA avec vous, le championnat de basket nord-américain.
Boston, Indiana, 109-102. Golden State Warriors, Brooklyn Nets, 117-101. Orlando, New York Knicks, 95-106. Et Los Angeles Lakers, Miami, 107-115.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les partisans de l'ancien président Amadou Toumani Touré demandent son retour au pays. L'Assemblée nationale ayant décidé d'abandonner les accusations contre celui qu'on appelait ATT. De Bamako, Kassim Traoré fait le point.
ATT était accusé d'avoir participé à une entreprise de déstabilisation du territoire national en ayant facilité la pénétration et l'installation des forces étrangères, notamment en ne leur opposant aucune résistance. Une autre accusation est relative à sa volonté d'avoir détruit et détérioré volontairement l'outil de défense nationale. L'incrimination principale était sa participation à une entreprise de démoralisation de l'armée caractérisée par des nominations de complaisance d'officiers et de soldats incompétents. Abdoul Kassoum Touré, président de la commission ad hoc pour l'examen de mise en accusation d'ATT.
Bon, ces rapports étaient assez attendus au niveau de l'Assemblée nationale parce que ça fait l'objet de plusieurs reports. Il a été décidé quand même de le prendre en charge aujourd'hui que nous avons eu à ouvrir le pli parce que c'était sous pli scellé au niveau du bureau. Donc à la connaissance de la plénière, donc là c'était la dernière phase de nos investigations.
Après l'examen, la commission a fait une résolution prouvant que l'ancien président n'est pas poursuivable. C'est ainsi que 104 députés ont voté contre l'inculpation, 5 pour et 6 abstentions.
Moi, c'est Django Koulibaly. Les honorables députés ont pris une décision vraiment très sage. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Amadou Toumani Touré, l'ancien président du Mali, il n'y a pas de preuves matérielles qui montrent que vraiment il a trahi le Mali. La situation de la crise que le Mali a connaît. C'est une guerre qui nous a été imposée. Il ne faut pas dire que c'est la faute à ATT.
Je m'appelle Assetou Samake. Je pense que les honorables députés ont pris une bonne décision. Le simple fait pour la sécurité et la cohésion nationale que les Maliens cherchent depuis très longtemps. Sans preuve, on ne peut pas inculper une personne. Je pense que c'est la décision qu'il fallait prendre.
Pour Django Koulibaly, l'ancien chef d'État malien doit revenir au pays, car cela fait plus de 4 ans qu'il est à Dakar.
Le fait d'abandonner ces processus-là contre ATT permet même aujourd'hui et à la réconciliation nationale que les Maliens souhaitent aujourd'hui. Parce que ATT a été président du Mali pendant 10 ans. Cette décision doit être matérialisée par le retour d'Amadou Toumani Touré au Mali.
Le président de l'Assemblée nationale, lors de la clôture de la session extraordinaire du Parlement, a pris l'engagement de remettre la résolution des députés à l'exécutif. Issiaka Sidibé.
Présente session a été également l'occasion pour nous de nous prononcer sur le rapport de la commission ad hoc d'examen de la demande de mise en accusation de l'ancien président de la République Amadou Toumani Touré et celui de la commission d'enquête sur les événements survenus à Kidal en 2014 à la suite de la visite de l'ancien premier ministre Moussa Mara. Les résolutions historiques que nous avons votées à la faveur de l'examen de ces deux dossiers seront transmises aux autorités compétentes.
Pour le retour d'ATT au Mali, il faut une implication du président Ibeka auprès de ses pairs de la CDAO, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En République centrafricaine, Noël à la maison, c'est le nom d'une opération lancée par le gouvernement de Bangui et qui vise à pousser les quelques 28 000 déplacés du sud de l'aéroport de la capitale à regagner leur domicile. Depuis cette semaine, ce camp de fortune est en plein démantèlement. Reportage de Freeman Sipila.
L'opération Noël à la maison a été officiellement lancée le 15 décembre dernier par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Aujourd'hui, le site est déjà détruit à moitié. Sous la pression d'un bulldozer, Rodolphe détruit sa hutte.
Je suis en train de démonter ma hutte pour rentrer chez moi. Nous ne voulons pas de l'argent, la paix, la sécurité, c'est ça. Quand le gouvernement demande de quitter le site, bien sûr, il va quitter. Mais malheureusement, encore, tu vois, on a démonté notre maison, encore bulldozer, il se poursuit. Tout détruit notre hutte, c'est pas bien.
Les déplacés sont accompagnés financièrement à leur domicile ou dans leur nouveau lieu d'habitation. Une famille de 1 à 3 personnes perçoit 50 000 francs CFA. À partir de 4 personnes, le ménage a droit à 100 000 francs CFA. Bertin Gustave Niakamati, du ministère des Affaires sociales, coordonne cette opération.
À travers le profilage que nous avons fait la fois passée, nous connaissons là où les gens doivent aller et nous avons mis en place une chaîne de procédures pour permettre à ces gens de sortir dans la dignité et dans la sécurité.
Certains déplacés trouvent insuffisant le montant proposé par le gouvernement. D'autres se disent obligés de faire avec. Selon le coordonnateur des opérations, il s'agit d'une première phase d'appui.
C'est un appui au retour, ce n'est pas encore une prise en charge. Voyez. Donc ça leur permettra sûrement de sortir, de commencer déjà à s'intégrer dans la société. Ce n'est pas vraiment quelque chose, mais le véritable accompagnement, ça sera dans les quartiers de retour.
Alors que le site est en pleine destruction, certains déplacés ne savent pas encore où aller. Les maisons de location sont devenues rares et les prix ont même doublé dans les quartiers supposés être en sécurité. Ce père de foyer a dû négocier provisoirement une chambre chez son cousin.
Dans le 3e arrondissement, nous avons notre maison là-bas. Comme la guerre a commencé, on a quitté, on a regardé l'aéroport Sidempoko. La maison est détruite, tout est pillé, il n'y a rien, c'est rien qui est terrenu, il n'y a rien dedans. J'ai demandé à un cousin de dormir chez lui comme la famille d'accueil. Après, je vois si je peux avoir une maison. Mais c'est un peu difficile, hein. Avec maigre somme, je ne peux pas payer une maison comme ça. J'ai des enfants et ma femme. Et puis, tu vois, c'est un peu difficile. Je n'arrive pas à louer une maison.
8 000 ménages représentant 28 000 personnes devront vider d'ici la fin de l'année le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. L'opération bénéficie de l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Un vaccin d'origine canadienne contre Ebola, maladie qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, pourrait avoir jusqu'à 100% d'efficacité. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'OMS. Comme nous le disions en début d'émission, il n'y a eu aucun cas d'Ebola parmi les près de 6 000 personnes qui ont reçu l'an dernier ce vaccin en Guinée contre 23 cas chez les non-vaccinés. Ce qui suggère fortement que le vaccin est très efficace et pourrait avoir une efficacité jusqu'à 100%. A déclaré à l'AFP le docteur Marie-Paul Kieny, sous-directrice régionale à l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, dans la cinquième et dernière partie de notre série VO Afrique consacrée au virus Ebola, notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara, s'est rendu à Gekedou. Il nous parle ce matin des problèmes de santé des guéris d'Ebola.
Les guéris d'Ebola n'en ont pas fini avec les problèmes de santé. À Gekedou, ils sont nombreux à se plaindre.
À l'heure où je suis là, même si c'est la route que je prends pour que je vais essayer de travailler ici, dès que j'arrive par là, il me faut faire un repos minimum de 15 minutes.
Jusqu'ici, j'ai des problèmes au niveau de l'oreille gauche. Parfois même, il y a un bruit.
Ça ne peut pas faire plus d'un mois comme ça si je ne tombe pas malade. C'est-à-dire le corps chaud, un mot de ventre. Des problèmes, etc. comme ça.
Les anciens malades d'Ebola sont suivis par les services sanitaires guinéens, mais certains ne semblent pas être satisfaits. Sassa Bass, président des guéris d'Ebola de Gekedou.
Si vous voyez que je parle avec insistance, je lève le ton. On parle de prise en charge des sorties guéris d'Ebola dans le domaine médical, mais rien n'est respecté à Gekedou, à l'heure où je vous parle. Rien.
Les échantillons de sperme sont prélevés. Sassa Bass souhaite que les résultats de l'analyse lui soient communiqués.
On nous demande de faire le prélèvement du sperme. On le fait. Mais ce qui m'étonne, on fait le prélèvement. mais les résultats jusqu'à présent, on ne comprend pas.
Le prélèvement fait partie des activités de surveillance mises en place par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Dr Fassine Yattara, responsable de l'unité de surveillance à l'ancienne coordination.
Il y a un certain nombre de composantes, notamment tous les aspects de sensibilisation, pour accepter la collaboration des personnes mâles capables de pouvoir peut-être transmettre l'Ebola à partir de leur spermatozoïde. Il y a également l'analyse du lait maternel chez les personnes guéries d'Ebola, les femmes qui ont fait des enfants après, pour voir si elle ne peut pas contaminer son enfant en allaitant.
Du retour de Guikédou, pour La Voix de l'Amérique, Zakaria Camara.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Ici aux États-Unis, des défenseurs des droits des immigrants organisent des ateliers à l'intention des sans-papiers, une initiative fébrilement menée à quelques semaines de l'arrivée à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump, qui a promis d'être plus ferme en matière d'immigration. Le point avec Lionel Gahima.
À Hertzville, une localité de l'État du Maryland proche de Washington, une centaine de sans-papiers sont réunis dans une salle. Tout d'un coup, les volontaires travaillant avec eux frappent à grands coups un tableau accroché au mur, à la manière des policiers lors d'une perquisition. Le silence s'installe dans la salle. La session est organisée par l'ONG Hispanicasa pour enseigner aux sans-papiers leur droit à faire face à la police. Alma Colbotti est une organisatrice de CASA.
Nous devons tous connaître ces droits et comment les défendre. Le droit de garder le silence, le droit à un avocat en cas d'arrestation et celui de donner uniquement votre nom et votre lieu de résidence dans le Maryland. C'est tout ce dont vous avez besoin.
Le président élu Donald Trump a clairement exprimé son intention de lutter vigoureusement contre l'immigration illégale, notamment en érigeant un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a promis d'expulser les millions de sans-papiers vivant aux États-Unis. Maria Herrera fait partie de ce groupe. Elle a bénéficié d'une initiative du président Obama datant de 2012 et protégeant les sans-papiers venus aux États-Unis en tant qu'enfants. Donald Trump peut y mettre fin d'un coup de plume, déplore-t-elle.
Je suis très anxieuse car s'il décide d'annuler cette mesure, de nombreuses personnes seront séparées de leur famille. Je devais venir ici pour m'informer car je n'ai pas tellement d'informations.
Ce n'est pas une bonne période pour les gens comme Maria Herrera, reconnaît Dan Stein, président de la Fédération pour la réforme de l'immigration américaine. Ce dernier estime cependant que des ateliers comme celui de Hyattsville rendent difficile le travail des autorités. Ce que ces organisations tentent de faire est de rendre difficile l'identification par les policiers de qui a le droit d'être aux États-Unis et qui est en situation irrégulière. Question de bloquer l'application des lois de l'immigration. Le président élu Donald Trump a exprimé de la sympathie pour les quelques 741 000 sans-papiers bénéficiant de la mesure de protection prise par le président Obama. Mais il n'a pas écarté l'idée de la supprimer.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vacances de pluie ou hiver, la fièvre la ca monter, monter plus haut. Bohemian Bel Plaisir, pays à Saint-Saint.
Les ouais, moi bien comme ça, tout comme moi qu'à chanter.
Moi qu'à chanter l'amour, moi qu'à chanter la joie.
La joie qui dans tient moi, c'est pour faire un sourire.
Vacances de pilou, il fait la fièvre, la qu'à monter, monter pilou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.